La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Bah voilà, nous voilà de retour. Alors on a, vous a rajouté un petit morceau parce qu'on n'était pas tout à fait prêt, il y avait de l'activité dans le studio. Vous venez d'écouter en dernier titre, c'était Birth of Joy avec Nowhere to Run. Donc on va commencer cette deuxième partie sur s'informer autrement. Et je crois que Pierre a un petit article allemand à nous commenter.
Ouais, allemand et américain. Juste avant de commencer sur mes trucs allemands et américains, je voulais vous mettre un lien vers un article sur le média Echo, E-H-K-O, de Hassina Meshaï qui s'appelle « La réaction républicaine, le grand bond en arrière démocratique », et en fait qui analyse les discours publics, les discours gouvernementaux, les discours médiatiques là, autour de voilà, cette espèce de religion républicaine dont tu as parlé avant, Kat. Donc voilà, je vous fais pas l'article, mais je vous conseille d'aller le lire pour, disons, approfondir les tenants et aboutissants là-dessus. C'est un article d'Hassina Meshaï, donc c'est une des fondatrices du Média Echo. Et tant qu'à faire, si vous allez dessus, vous pouvez aussi lire un article qui s'appelle « À propos de Hassina Meshaï ». Donc c'est elle qui l'a écrit en fondant le média, où elle se raconte un peu et pourquoi elle fait, pourquoi elle crée ce média, qu'est-ce qu'elle veut y faire, qui est très intéressant aussi. Voilà. Le truc que j'avais plus ou moins préparé, c'est s'informer autrement. Des fois, c'est dans les médias étrangers, quoi. Regardez ce que les médias étrangers peuvent raconter sur la France, parce que on va dire qu'ils sont un petit peu plus libres, quoi. C'est comme, finalement, les médias français, quand ils parlent du reste du monde, ils voient le fascisme, mais ils le voient pas sous leur nez, quoi. Enfin, voilà. Et donc, en commençant par un article qui s'appelle, originalement, donc c'est en Allemagne, le Zeit, donc l'équivalent du Monde en France. L'article s'appelle, alors je sais pas si j'ai les bonnes traces d'allemand, mais « Autoritäres Absurdistan », un absurdistan autoritaire. Et donc, qui est un point de vue sur la France depuis l'Allemagne. Vous en avez pas forcément entendu parler parce que les médias français, évidemment, non. C'est un article vraiment à charge, hein, entre autres sur la gestion sanitaire en France. Je l'ai vu repris que sur Nantes Révoltée et sur RTL. Bon, sur RTL, c'était assez succinct. Mais sur Nantes Révoltée, c'est un petit peu plus développé. Et entre autres, on a des bouts de traduction. Donc voilà, je vous conseille d'aller lire l'article en question. Hein. Ça s'appelle « La France vue d'Allemagne, un absurdistan autoritaire ». Et je vais vous en lire juste quelques petits bouts. Donc c'est voilà, des bouts de traduction, hein, de l'article du Zeit. Attestation pour quitter la maison ou courir devant chez soi, vigile pour surveiller les jouets, le verrouillage de la France est tellement répressif que même les règles censées sont déconsidérées. Le déploiement policier contre une poignée de seniors sur une plage de Biarritz longue d'un kilomètre est l'une des conséquences des nombreuses règles autoritaires décidées par le gouvernement. Les citoyens doivent rédiger une attestation autosignée expliquant pourquoi ils sortent à chaque fois qu'ils quittent leur maison. Par exemple, une attestation pour emmener les enfants à l'école, une deuxième pour obtenir du sirop contre la toux à la pharmacie, une troisième pour acheter des baguettes, une quatrième pour aller travailler. Plus loin, plus de 60% des Français déclarent ne plus adhérer aux règles, deux fois plus que lors du dernier confinement. Une personne sur deux se dit plus déprimée depuis le reconfinement. La confiance de la population envers le gouvernement est la plus basse d'Europe. Deux personnes interrogées sur trois pensent que le président Macron gère mal la crise du coronavirus. Le bilan français est catastrophique. Bien que le pays ait donné l'une des réponses les plus autoritaires à la crise sanitaire, le nombre de morts est maintenant plus élevé qu'en Suède, où les mesures ont été beaucoup moins dures. Encore un peu plus loin, il y a des panneaux d'avertissement ou des vigiles devant les étagères avec des ours en... devant les étagères avec des ours en peluche afin que les clients n'achètent rien d'interdit. De plus, à part l'extrême droite du Rassemblement National, la France n'a guère d'opposition audible. À terme, le Rassemblement National va profiter des décisions solitaires prises au sommet de l'État. La gestion sanitaire de Macron est presque monarchique. Les décisions majeures concernant un confinement ou un couvre-feu sont prises dans un conseil de défense composé de quelques ministres, fonctionnaires administratifs et officiers. Le président de 42 ans a annoncé sa décision sans qu'aucune question ne soit autorisée. L'urgence sanitaire a été votée pour 5 mois et elle donne au gouvernement des pouvoirs très étendus. Voilà, Nantes Révolté ajoute « Et encore, la presse allemande n'a sans doute pas vu que les lycéens étaient tabassés et gazés par la police et que des lois ultra-liberticides allaient être imposées en plein confinement. » Voilà, donc la France vue d'Allemagne.
Et juste, c'est un peu limite de dire que la seule opposition, c'est le Rassemblement National, quand même. Enfin...
Ce qu'elle dit, c'est le...
Si j'ai bien compris. Non, c'est...
La France n'a guère d'opposition audible. Audible, ouais. C'est sans doute... Enfin, tu peux pas dire qu'il y a un autre parti que la République En Marche ou le Rassemblement National qui est voix au chapitre dans les médias traditionnels. Enfin, tu vois, effectivement, tu auras toujours un pigeon pour venir donner la réplique, mais si tu regardes les invités politiques, c'est assez restreint, quand même. Donc, bon, qu'est-ce qu'on met derrière audible? Je sais pas, mais... crédible, c'est vraiment audible, pour le coup, c'est difficile de dire le contraire. L'autre article dont je voulais parler, c'est dans le New York Times. Alors, je voulais vous en parler la semaine dernière, mais on n'avait pas eu le temps. Et c'est en fait, sur plusieurs articles dans la presse étrangère, il semblerait que l'Élysée se soit bougé pour les faire interdire, voire... et puis pour publier des droits de réponse. Donc toujours des articles critiques de la politique française et des décisions du gouvernement, et entre autres, critiques de l'islamophobie qui se met en place à marche forcée, quoi. Pour vous parler de ça, je vais peut-être partir d'un article du Monde, mon journal préféré, la Pravda macroniste, qui la voix de son maître, hein, va parler du fait que la France est évoquée dans les médias étrangers, mais ne va donner la parole que à Emmanuel Macron. Donc là, ça devient carrément ridicule, hein. L'article s'appelle « Pour Emmanuel Macron, la France ne va pas changer son droit sur la liberté d'expression parce qu'il choque ailleurs ». En fait, c'est le message qui a été envoyé. Macron a donné des interviews dans plusieurs articles. Et c'est vraiment les deux tiers, pour être gentil, de l'article sont entre guillemets, et c'est la parole d'Emmanuel Macron, quoi. Et le reste, enfin le tiers qui reste, en gros, c'est pour mettre en page, hein, la parole présidentielle. Donc c'est une sorte de réponse aux critiques qui peuvent être formulées dans les médias étrangers en disant non mais nous on fait ce qu'on veut, ça n'a pas de sens, vous savez, les médias anglo-saxons, c'est pas la même chose que la. Enfin, ils comprennent pas la France, etc. Alors je vais, disons, pour répondre un peu à ça, ou pour en tout cas exprimer. S'exprimer en tant que média anglo-saxon étranger à la France, là, il y a un article dans le New York Times de Ben Smith, qui est le coloniste média du New York Times. L'article s'appelle Macron contre les médias américains. C'est dans le New York Times, mais vous pouvez le trouver en français, quoi. Il est traduit aussi sur le site. Après les attentats, le président français accuse les médias anglo-saxons de légitimer ces violences. Alors, je ne vous le fais pas en entier, mais je voulais commencer par... il va rappeler, en fait, ce qui s'est passé dans les médias étrangers et comment l'Élysée a essayé d'influencer là-dessus. Alors, je vous lis ce bout-là déjà. Certains des griefs français à l'encontre des médias américains rappellent ceux des guerres culturelles américaines. Des plaintes à l'encontre de titres d'articles restés brièvement en ligne et de tweets désinvoltes de journalistes. Mais leur principal argument est que, après les attentats, les médias anglais et américains se sont immédiatement concentrés sur les échecs de la politique française envers les musulmans, plutôt que sur la menace terroriste mondiale. Une tribune parue le 3 novembre dans le Financial Times a rendu M. Macron particulièrement furieux. La tribune, intitulée « La guerre de Macron contre le séparatisme islamique ne fait qu'accroître les divisions en France », argumenter que le président a aliéné la majorité musulmane qui déteste tout autant le terrorisme. L'article affirmait que M. Macron s'en prenait au « séparatisme islamique », entre guillemets, alors qu'il avait en fait utilisé le mot « islamiste ». Les critiques de M. Macron l'accusent déjà de faire l'amalgame entre pratiques religieuses et extrémisme, et c'est pourquoi la déformation de ses propos, qui voulait justement distinguer l'islam comme religion et l'islamisme comme idéologie, l'a excédé. Entre guillemets, là, il cite Macron, « J'ai horreur d'être décrit avec des mots qui ne sont pas les miens », m'a dit M. Macron. Après une série de plaintes de lecteurs et un appel furieux du bureau de M. Macron, le Financial Times a retiré l'article de son site internet, un événement sans précédent dans les souvenirs de Christina Eriksson, une porte-parole du quotidien. Le lendemain, le journal publiait une lettre de M. Macron qui attaquait l'article retiré du site. Fin octobre, Politico Europe a également supprimé une chronique « La laïcité, dangereuse religion française », commandée à un sociologue français. L'article s'est attiré les foudres des critiques qui accusaient l'auteur de rendre les victimes responsables du terrorisme. Mais la suppression éclair a amené l'auteur à se plaindre de censure pure et simple. Le rédacteur en chef de Politico Europe, Stephen Brown, a dit que l'article avait été publié à un moment inopportun, mais qu'il s'était excusé auprès de l'auteur de l'avoir retiré sans explication. Il n'a pas mentionné d'erreur particulière. C'est aussi la première fois, selon lui, que Politico retirait un article d'opinion. Mais les objections françaises vont au-delà de ces articles d'opinion et portent aussi sur le journalisme plus prudent qui interroge les politiques gouvernementales. Une analyse sceptique de ces dernières dans le Washington Post par son correspondant parisien James Macaulay, qui s'appelait « Au lieu de s'attaquer au racisme systémique, la France veut réformer l'islam », a été vivement critiquée pour... réformer l'islam, c'est entre guillemets aussi, hein. A été vivement critiqué pour avoir évoqué l'idée que, au lieu de s'occuper de l'aliénation des musulmans français, le gouvernement français cherche à influencer la pratique d'une religion de 1400 ans. Le New York Times a pointé le contraste entre la réponse idéologique de M. Macron et le discours plus conciliant du chancelier autrichien après une attaque à Vienne, et a noté que les jeunes hommes isolés qui commettent des attentats ne font pas forcément partie des réseaux terroristes sur lesquels le gouvernement se focalise. Dans les pages Opinion du New York Times, un article demandait tout bonnement « La France alimente-t-elle le terrorisme en essayant de l'éradiquer ?» Donc voilà, ça fait un résumé des pressions en fait, qui sont mises sur la presse étrangère pour qui marchent. Hein, des fois, on a supprimé un article du Financial Times après un coup de fil de l'Élysée.
Là, tu es toujours sur l'article du Monde.
Non, ça c'est le New York Times, c'est l'article de Ben Smith là dans le New York Times. Donc qui refait le non, le New York Times, le Monde, c'était que la parole de Macron entre guillemets. Donc voilà, on comprend à travers les lignes ce qu'il y a dedans, il y a pas besoin de le reprendre, tout le monde l'a entendu partout. C'est vous faites pas la part des choses entre la menace islamiste internationale, disons, et la place des musulmans en France. Et en plus, vous n'êtes pas très sympa, parce que là, on est dans un moment de deuil, et vous nous attaquez sur le racisme en France, machin, blablabla.
Et du coup, ils n'ont pas besoin... Macron ne cherchera pas à faire ça en France, parce qu'il n'a pas besoin.
Ben, en France, il n'a pas besoin, non. La Pravda lui donne... Tribune... À ma connaissance, dans les médias français, en tout cas mainstream, dominant, il n'y a pas eu de critique de ce qui est fait par le gouvernement si critique il y a, c'est qu'ils n'en font pas assez. C'est-à-dire il faut passer directement au Front National, quoi. Alors, ça, c'était un peu le résumé de ce qui s'est passé. Et donc, bon, toute sa tribune à Ben Smith, là, c'est qu'est-ce qu'il en pense, hein, voilà, c'est des journalistes avec des vraies opinions, en fait, dans la presse anglo-saxonne. Donc, je vous lis juste la fin. Une partie de la couverture médiatique que déplore M. Macron reflète une des différences que tu peux voir pour savoir si tu es dans la presse française ou dans la presse anglo-saxonne, c'est ce qu'il l'appelle M. Macron ou Emmanuel Macron. Bientôt, je pense, dans Le Monde, ils vont l'appeler Emmanuel carrément. Il y aura plus besoin de préciser. Donc, je reprends. Une partie de la couverture médiatique que déplore M. Macron reflète une véritable différence de valeur. Les Français lèvent les yeux au ciel devant le christianisme démonstratif des États-Unis. Et les sorties de M. Macron sur le voile ou les menus à l'école, tout comme les plaintes du ministre de l'Intérieur sur les rayons halal dans les supermarchés, se heurtent à l'importance qu'accordent les Américains à la tolérance religieuse et à la liberté d'expression protégée par le premier amendement de leur Constitution. De telles distinctions idéologiques abstraites peuvent paraître éloignées de la vie quotidienne des nombreuses minorités ethniques de France, qui se plaignent des abus de la police, de ségrégation résidentielle et de discrimination au travail. Dans son discours d'octobre, M. Macron a également reconnu, de manière inhabituelle pour un dirigeant français, le rôle qu'a joué la ghettoïsation des musulmans dans les banlieues de Paris et d'autres villes, dans la création de générations entières de jeunes musulmans en décalage de la société. Et certains des reportages qui ont le plus offensé les Français reflétaient simplement l'opinion de Français noirs et musulmans, qui ne voit pas le monde tel que les élites françaises le souhaitent. Se battre avec les médias américains est aussi un sport de longue date en France, et il peut être difficile de savoir quand un débat sur les différences culturelles est authentique et quand il vise à cacher des réalités gênantes. Certains commentateurs français réactionnaires sont allés encore plus loin que M. Macron dans leurs attaques contre les médias américains, puisant leur énergie dans les guerres culturelles aux États-Unis. Un article incendiaire dans le magazine Marianne fustigeait la couverture médiatique américaine et est ensuite paru en anglais dans Tablette avec l'ajout d'une touche américaine qui dénonçait « des effets de morale bien pensante simpliste ». Entre guillemets. Cela dit, les écarts idéologiques entre les points de vue français et américains peuvent être trompeurs. Les commentateurs français ont aussi dénoncé le mouvement MeToo comme un exemple d'idéologie américaine hors de contrôle. Pascal Bruckner, l'intellectuel renommé, a qualifié les critiques contre Roman Polanski de McCarthyisme néo-féministe. Mais le journalisme américain en France, sans doute le plus en vue cette année, était une série d'articles du journaliste du New York Times, Norimitsu Onishi, qui a joué un rôle central en poussant la France à se confronter à la pédophilie notoire d'un écrivain connu, Gabriel Matzneff. Un récent portrait dans une revue française d'information notait que M. Onishi et d'autres, entre guillemets, mettent un coup de pied dans la fourmilière rien qu'en nommant les choses, qui n'avait pas été abordé auparavant. M. Matzneff est maintenant accusé devant la justice. Et M. Macron a son propre contexte politique. Un combat désespéré contre un coronavirus en recrudescence, une économie affaiblie et une menace politique à sa droite. Il se désengage également d'une tentative précoce et infructueuse de rapprochement avec le président Trump. Il avait parlé avec le président élu Joseph Biden la veille de notre entretien. Je lui ai demandé si ses plaintes à l'encontre des médias américains n'étaient pas elles-mêmes un peu trumpiennes. Des attaques hautement médiatisées au service d'un programme politique. Monsieur Macron a répondu qu'il veut seulement que lui et son pays soient compris clairement. Donc là, entre guillemets, hein, il cite ce que lui a dit Macron. Mon message est le suivant. Si vous avez des questions sur la France, appelez-moi. Fin des guillemets. Et donc, il précise entre parenthèses, accessoirement, il n'a jamais accordé d'interview au bureau parisien du New York Times, ce qui serait un bon début. Il a rejeté la comparaison avec M. Trump, et il a dit, je lis vos journaux, je suis l'un de vos lecteurs. Voilà, point. Donc, Je vous conseille de lire la tribune en entier, parce que voilà, c'est... J'ai pas précisé au début, mais ça vient un coup de fil, quoi, entre ce Ben Smith et Macron, qu'il a écrit cette tribune après Ben Smith. Et il y a plusieurs, comme ça, extraits, quoi, de ce que lui a dit Macron, qui sont carrément hallucinants. Si vous avez des questions sur la France, appelez-moi. Voilà ce que... Et en vrai, tu... T'imagines bien ça dans la bouche de Goebbels ou c'est hallucinant quand même. Voilà, donc la France vue de l'étranger, je vous conseille de continuer à regarder le New York Times, la presse allemande si vous parlez allemand, la presse anglo-saxonne de manière générale, le Guardian en Angleterre. C'était via un article du Guardian que je voulais vous en parler la semaine dernière. Voilà, en fait, les médias anglo-saxons, ce qu'ils en pensent de ce qu'ils racontent, enfin, ils sont libres, en tout cas, ils sont libres de l'influence française. Ils en ont rien à foutre de ce que dit Macron. Et ils continuent avoir une critique sociale éclairé, c'est peut-être beaucoup dire quand même, mais en tout cas complètement lunaire quand on la compare à ce qui se fait dans les médias français, quoi.
Ok. On passe au sujet suivant.
Allez.
Ou quelques... Non.
Ça me paraît bien.
Bien. Bon, alors Thibaut, de quoi il nous parle Thibaut aujourd'hui?
Moi, je vais vous parler d'un article encore d'un média anglo-saxon, de The Intercept, qui s'appelle... L'expérience d'El Paso. Cet article, il revient un peu sur l'histoire de la politique de l'immigration, on va dire, et notamment de l'administration face aux réfugiés, à travers l'histoire d'une expérimentation qui a été faite à El Paso et qui a été après étendue pendant 2 mois dans le pays et qui est issue de la politique zéro tolérance de Trump. L'article, il suit un peu un des... il suit une personne qui est un avocat commis d'office, on va dire, fédéral, et donc qui défend les personnes qui demandent l'asile et qui sont accusées pour être entrées illégalement sur le territoire des États-Unis. Je vous reviendrai après sur lui. Je vais faire un petit résumé, qui est donné dans l'article des lois sur les réfugiés aux États-Unis. En 1980, c'est la première politique et programme qui permet de fournir sur la politique migratoire et qui permet de traiter les demandes de refuge. En 1996, un amendement s'ajoute sur l'immigration et le Immigration and Nationality Act, donc là, qui permet aux personnes qui sont persécutées dans leur pays de voir une personne de l'administration et si la personne donne son aval, de voir un juge de l'immigration. En 2014, pendant le deuxième mandat de Barack Obama, ils ont eu une période pendant laquelle le nombre de mineurs non accompagnés qui arrivaient à la frontière a augmenté de 77% et des parents avec mineurs de 400%. Face à ce nombre important de réfugiés qui arrivaient, ils ont décidé d'abord de donner des notifications à ces personnes d'apparaître devant une cour de l'immigration et plus tard de les détenir, donc un centre de rétention. Il se trouve que la cour, suite à une plainte qui a été déposée, la cour a interdit de détenir des familles, a interdit à l'État de détenir des familles, de les maintenir en détention. Et donc là, on arrive en 2016, où 80% des familles qui cherchent l'asile, donc qui rentrent par les postes frontières et demandent l'asile, se font refouler des postes de frontières. Et donc une grosse partie de ces 80% va essayer de passer directement en traversant le Rio Grande. Et donc arrive la politique zéro tolérance de Trump, à savoir que l'État peut porter à charge contre les migrants l'entrée illégale sur le territoire. Il se trouve que concrètement, c'est pas fait pour les ces charges ne sont pas portées contre les personnes qui demandent le statut de réfugié. Parce que ça rendrait caduque, en fait, le fait de pouvoir demander le statut de réfugié. Parce que du moment que tu le demandes, tu serais accusé. Parce que tu es rentré illégalement sur le territoire. Et c'est ce qui a commencé à arriver avec cette politique de tolérance zéro de Trump. L'article cite une interview l'assistant adjoint du procureur général sous l'administration Obama. Et donc, il explique un peu l'évolution entre comment était la politique migratoire sous Obama et comment elle a évolué sous Trump. Et donc, c'est une interview qui a été faite par la radio publique nationale, qui, je crois, n'est plus tellement publique aux États-Unis, mais bref. Et donc, on va entendre maintenant.
Okay, so just how far apart is President Trump's approach to immigration from President Obama's? Obama, after all, took a lot of heat for his policies, particularly after a surge of migrants began coming through the U.S.-Mexico border in 2014. Leon Fresco was a deputy assistant attorney general in the Obama administration.
The Obama administration said, we are being faced with this humanitarian crisis on the southern border where Border Patrol agents and ICE agents who are supposed to have immigration functions are doing things like changing diapers and giving milk and things that they're not operationally trained for. We have to figure out some way to address this.
Fresco handled a number of immigration lawsuits for President Obama's DOJ, and he spoke with Steve Inskeep this week.
Prior to 2014, the history of America was a history of you let the family in together and you give them an immigration proceeding. That was pretty much it.
Meaning that at some point they'll come back to court or they're supposed to anyway and find out if they can stay or if they must go.
Correct. That was the history of America.
Okay, but after 2014, the Obama administration said there was a problem. Some of the new arrivals were not showing up in court.
But because there were so many people coming,
you
have to have some mechanism. And that mechanism is either detention so that you make sure they show up to court or the good faith of the individual who's coming over to show up to court. Those are your choices, essentially.
Well, let's underline a couple of things that I'm learning as you're talking that I think are extremely relevant now. First, the Obama administration was facing the question of how to enforce the law, how to let those stay who deserve to stay, and how to deport those who need to be deported.
That's correct.
So whenever anybody today says President Obama had an open borders policy, that's just a lie.
That is complete falsehood. In fact, President Obama was constantly called the deporter in chief, and all you need to do is go on my Twitter feed and see people say, you're the guy who kept trying to deport everybody.
The second thing that you're underlining for us is that even though the unaccompanied minors are the people who made news, and there were thousands of them, there were also families coming across.
Absolutely.
And
at
your
equal
dilemma,
levels.
And your dilemma was, what do you do with the families? What prevented you from just holding the parents and the children together?
So that is what the Obama administration tried to do. They constructed one 2,500-person facility in Karnes, Texas, and another one in Dilley, Texas. And those look like basically Econo-Lodge hotels that you cannot leave, that are enclosed. And so the idea was keep people in family detention until their case was decided.
Okay, what was wrong with that?
So the people who in 1986 filed a lawsuit called Flores versus Meese at that time, because Ed Meese was the attorney general.
Wow, long time ago.
Yes, then that case was settled in 1996. And the settlement said that if you have an unaccompanied minor in your custody, you have to let them out. The problem was that settlement agreement did not use the word unaccompanied minor. It used the word minor. But because it only used the word minor, no minor can be held in any custody whatsoever.
Even if they're with their parents, it's still custody.
Correct.
Gotta
Can't
let
do
them
it.
Go.
Gotta let them go. And so then, if you want to hold somebody in custody, you have to separate the parents and the children, or you have to let the parents and the children in together to the United States and trust them to appear at their court proceeding. And so this is the conundrum that we face. Now, the Obama administration, and I was of this belief also, said, look, even if you think securing a border is a noble goal, and I think it's a noble goal, there are certain things you don't do to achieve noble goals. You don't kill people, you don't torture people, etc. And so we said on that line of morality is we're not going to separate them.
What sort of things did you do to supervise and monitor them, given that you couldn't hold them in detention?
So there is an amount of funding that exists, although it's not sufficient for everybody, so the funding would have to be plussed up, for electronic monitoring. And electronic monitoring includes different things. It includes ankle bracelets, but it doesn't need to. If you have an iPhone, you can actually put an app in somebody's iPhone that will buzz every 12 hours. And then what you do is you take a picture and it says you are where you're supposed
to
be.
Just check in with somebody, in other words. So the Trump administration comes along and they make a policy decision that they're going to prosecute everyone who is found crossing the border illegally.
Correct.
Is that different than the policy of the Obama administration?
The Obama administration and every administration, at least in my lifetime, and I'm 40, never had a policy of prosecuting anyone coming across the border unless they fit one of two criteria. Number one, they had some sort of drugs on their person, or they were involved in some sort of like sex trafficking operation of that kind, or in the rare occasions that there wasn't an aggravating factor, it had to be a single male, basically. Those were the two ways in which you saw prosecutions. You never saw prosecutions that separated parents and children, and you certainly never saw that for the purpose of causing the separation. That's completely new.
Surely somebody's listening and thinking, why shouldn't you prosecute everybody that you catch?
I think there would be two arguments not to do that. The first one is, interestingly enough, when you keep the family together, you can put the entire family in what's called the expedited removal process. And so their case gets decided quickly. If they win, they win. If they lose, they lose. If you separate the family, it's actually illegal to have an unaccompanied child, which is what you turn the child to, put into expedited removal proceedings.
Suddenly you create a legal nightmare.
And in fact, it's extremely expensive. It costs about $600 a day to have a child in the custody of one of these shelters, where if you had the best electronic monitoring system in the world, you're talking about $15 a day. And then the second thing is people make this argument, which I think has some basic sense to it, which is, look, when you commit any crime, you're risking to be separated from your children. I get that point. But what never happens in America when an American commits a crime is that the child is then sent to an orphanage with thousands of other kids at that orphanage. We got rid of orphanages a long time ago in America. And what we have now are foster homes with three or four kids, or you get sent to an uncle or a cousin or
something.
Grandmother, whatever. We don't have these thousand-person orphanages anymore. And those are a security risk waiting to happen. You can't have a 10-year-old in a facility with a 17-year-old for very long without some terrible story happening at some point.
Leon Fresco, thanks for coming by.
Thank you.
Steve Inskeep there talking to Leon Fresco, who was Deputy Assistant Attorney General in the Obama administration.
Voilà, on a quelqu'un de donc qui défend la politique d'immigration de Barack Obama, qui explique quand même que Obama, contrairement à ce qui a été pu dire, ne laissait pas rentrer tout le monde, qu'il déportait les gens qui étaient nécessaires de déporter. Et donc, il explique ce que je disais en 2014. Donc, il y a eu, à un moment donné, beaucoup de personnes, notamment beaucoup de parents avec des mineurs qui sont arrivés à la frontière, qu'ils avaient décidé de les parquer dans des camps, les détenir dans des camps en attendant qu'ils puissent passer par le process administratif. Et que donc, il y a eu une injonction de la Cour qui a demandé, qui a ordonné, en fait, rendu illégal le fait de détenir des mineurs. Et enfin, le procès était sur les mineurs non accompagnés. Il se trouve que dans ce qui a été rendu par la Cour, c'était mentionné tous les mineurs. Et donc, ils ont été obligés de libérer tous les mineurs non accompagnés et toutes les familles avec les mineurs. Il explique qu'à ce moment-là, ils avaient le choix, puisque quand même, il explique que c'est un noble but de devoir défendre les frontières, quoi. Ils avaient le choix entre relâcher les familles avec les enfants ou séparer les enfants des familles. Il explique que quand même, il y a des choses qu'on ne fait pas, comme tuer ou torturer, et séparer les familles, ça en fait partie. D'autant que c'est plus intéressant d'avoir les familles avec les enfants, puisque ils passent plus rapidement le process administratif, et s'ils sont refusés, on peut directement les éjecter du pays ensemble, alors que c'est plus compliqué de virer un enfant seul. Et donc, il explique qu'en plus, on peut, une fois que éventuellement, pendant ce temps-là, si on ne peut pas les enfermer, on peut quand même utiliser les bracelets électroniques ou ce truc de téléphone portable où toutes les 12 heures, tu reçois un message et tu dois te prendre en photo pour montrer où t'es toutes les 12 heures et que t'es bien toujours dans le coin et que tu vas te rendre au tribunal. Puisque c'était ça leur problème, c'est qu'il y en avait beaucoup qui ne se rendaient pas à l'injonction qui était faite de passer devant la cour de l'immigration. Et donc il défend ça et il explique que donc, depuis que Trump est arrivé, donc il y a une tolérance, sa tolérance zéro, qui est que chaque personne qui traverse la frontière, qui est prise traversant la frontière, est poursuivie. Et donc les enfants, les familles avec enfants, les enfants sont séparés des familles. Et c'est ça a commencé en 2017, donc en juillet 2017, d'abord dans la ville d'El Paso, donc d'où le titre de l'article, l'expérience El Paso. Et donc pendant 5 mois, donc tous les gens étaient, tous les personnes qui étaient prises en ayant traversé la frontière étaient poursuivies. Et donc les enfants séparés des familles, donc les enfants étant renvoyés dans d'autres administrations, qui vont les placer en fait ces enfants, ou dans le meilleur des cas leur permettre d'aller chez des personnes de leur famille qui sont déjà aux États-Unis. Et il se trouve que ces différentes administrations par lesquelles vont passer les enfants ne vont rentrer les informations que dont elles ont besoin pour procéder au placement des enfants et pas suivre le voyage des enfants parmi toutes les administrations. Et très vite, on perd les enfants. C'est-à-dire qu'on est incapable, enfin disons que c'est assez compliqué de retrouver les enfants d'une personne qui est maintenue en détention, voire qui, comme il l'explique, si jamais elle plaide coupable face à la cour, est renvoyée chez elle et leurs enfants peuvent être perdus par l'administration quelque part aux États-Unis dans un centre quelconque. Quoi. Et ça devient compliqué de refaire le lien. Cette expérimentation a eu lieu pendant 5 mois, donc de séparation des familles. Suite à ça, l'administration a fait remonter ces problèmes en disant qu'ils étaient incapables de suivre le trajet des enfants dans les administrations. Et quelques mois plus tard, l'administration Trump a décidé quand même de le rendre, mais cette fois national, donc sur toute la frontière. Ça a duré que 2 mois, donc c'est... ça a duré pendant 2 mois, donc de mai à juin 2018, puisqu'après il y a eu la justice, la chose a été portée par le American Civil Liberties Union devant la justice, qui a demandé, qui a imposé à l'État de réunir les familles, et donc l'administration Trump a arrêté ce truc de tolérance zéro. Et donc cet article explique tout ça en suivant une personne donc qui s'appelle Sergio Garcia, qui est donc l'avocat commis d'office fédéral, et qui va être une des rares personnes à se retrouver essayer de défendre ces personnes qui demandent l'asile et qui se retrouvent accusées d'avoir franchi légalement la frontière. Et donc il nous explique que donc en ces quelques mois, donc en ces 2 mois, officiellement, il y a 2800 enfants qui ont été retirés de leur famille. Ça, c'est en fait que les chiffres des enfants dont ils ont pu retrouver la trace. Il y en a plus, mais on ne le sait pas encore. Et quand ils ont rajouté ce qui a été fait pendant les 5 mois à El Paso d'expérimentation, il y a 1600 enfants encore qui ont été séparés de leur famille. Et donc voilà ce que nous relate un peu donc sur ces finalement 7 mois. Officiellement, pour l'instant, il y a à peu près 4500 enfants qui ont été retirés. Et ils expliquent probablement plusieurs milliers supplémentaires réellement, dont les traces pour retrouver entre les parents et les familles, ça prendra probablement des années et des années de faire de l'archéologie d'archives pour retrouver où les a envoyés l'administration des États-Unis et donc tout ce que ça implique pour les enfants d'avoir été retirés à leurs parents et trimballés d'une administration à une autre pour être placés dans des orphelinats ou ce genre d'institutions. Il y a une deuxième chose en fait qui est intéressante sur au-delà de ce que raconte l'article, c'est aussi la façon dont The Intercept le raconte, et qui est un truc qui est assez récurrent dans leurs articles, c'est qu'ils vont nous parler toujours. Par exemple, là, cet avocat commis d'office, il se trouve que c'est aussi quelqu'un qui était un Mexicain d'origine et qui a traversé la frontière pour venir. Et nous dire à quel point cette personne, en fait, est, pour appuyer leurs propos, ils vont utiliser en disant que cette personne est patriotique. Que elle, par exemple, tous les ans, elle fête l'anniversaire de son accession à la citoyenneté américaine en mangeant des burgers et en buvant du Coca-Cola, et qu'elle a dans son bureau le drapeau des États-Unis qu'elle a acheté le jour où elle a eu cette nationalité, qu'elle est avec devant le Capitole pour montrer à quel point elle est patriotique, à quel point du coup c'est recevable. Légitimer sa parole. Mais ce qu'ils font aussi, c'est que du coup, ils légitiment le fait qu'il y ait des gens qui soient dégagés du pays, quoi. Et ils ont tendance à faire ça. Ils ont fait beaucoup d'articles, notamment sur les prisons. Ils en font toujours avec le Covid. Et donc, les histoires du Covid en prison. Et toujours, ils vont dire, en prenant des témoignages de prisonniers, à quel point c'est une bonne personne, finalement. Et que, bon, il y a des bonnes personnes, il ne faut pas qu'elles aient le Covid et d'autres. Finalement, ça voudrait dire qu'on s'en fout, et là, il y a des bonnes personnes. Un peu comme le disait le mec de l'administration d'Obama, avant Trump, ceux qui étaient dégagés, ceux qu'on accusait de traverser illégalement la frontière, c'était les gens qui traversaient la frontière, mais qui aussi avaient d'autres... qui avaient enfreint d'autres lois, par exemple, qui transportaient de la drogue ou qui faisaient d'autres trafics, et les hommes blancs seuls. Donc, sous-entendu que c'était quand même ces gens qui enfreignent la loi, souvent des hommes blancs seuls, et que finalement, c'est légitime, mais que, par contre, ce que là a fait Trump, c'est quand même vraiment beaucoup trop. Mais que c'est quand même un noble but de défendre la frontière, et qu'il y a quand même des gens qui... c'est nécessaire de les déporter. Et pas tous les articles sont comme ça, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, mais c'est un truc qui revient assez souvent et qui est vraiment merdeux dans leur façon de le faire, de toujours appuyer ce truc-là et de faire ce qui est vraiment merdique et justifie des trucs assez crades. Voilà.
Ok. Bon, bah, je pense qu'on va. Ça va terminer notre séquence S'informer autrement. Je propose une petite pause musicale.
Ouais.
Alors, comme vous l'avez remarqué, c'est pas Steph qui est aux manettes, mais elle est quand même là pour nous souffler dans l'oreille ce qu'on doit passer en musique.
Oh là là.
Comment ça?
Et donc, elle nous a sélectionné Sharon Van Etten avec Afraid of Nothing. Et après, on enchaînera avec un titre du dernier album de Gael Faye qui s'appelle Lundi méchant.
Yeah.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé, la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon?
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant, comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant.
Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi.
Semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
Je vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'es inventéré et chauffer, chauffer, bah t'entends les pulsations dans tes tympans en chanter, chanter, c'est qu'encore écouter, goûter lundi méchant.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant.